Jusqu'à 22h, Asian Bubble. Entrez dans la bulle de Loli et découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Chaos, bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission d'Asian Bubble. Cette semaine, je vais vous parler de l'artiste Sawaguchi Yasuko. On parlera ensuite de trois mangas des éditions Keybooks, donc on aura la chronique du volume 3 de An Hour of Romance, la présentation du manhwa Shunshu et la chronique du volume 2 de The Dangerous Convenience Stores. On aura ensuite un point sur les sorties mangas de la semaine. On parlera culture avec le Japon dans les années 60. On aura ensuite une actualité au Japon avec un touriste américain qui a été arrêté pour avoir dégradé un sanctuaire de Tokyo. Et on finira avec une news musicale concernant le groupe Morning Musume 24 qui dévoile son nouvel album Professionals 17. Voilà, on va commencer tout de suite avec la première chanson de l'émission, c'est Aku no Hana, interprétée par Goto Mariko qui double le personnage de Nakamura Sawa, et on reviendra juste après pour parler de l'artiste Sawaguchi Yasuko. Donc c'était Goto Mariko avec la chanson Aku no Hana, donc Goto Mariko qui a doublé le personnage de Nakamura Sawa dans l'anime Aku no Hana. On passe maintenant à la présentation de l'artiste Sawaguchi Yasuko. Donc c'est une chanteuse de pop et actrice japonaise qui est née le 11 juin 1965. Elle est donc âgée de 59 ans. Elle est née à Sakai dans la préfecture d'Osaka et elle est en activité depuis 1984. Sawaguchi Yasuko est née d'une mère japonaise et d'un père britannique. En 1984, âgée d'à peine 19 ans, Yasuko est choisie comme première Toho Cinderella, c'est-à-dire la plus jolie fille du concours de beauté du même nom, devant 30 000 participantes. Toujours en 1984, elle sort son premier single, suivi de 4 autres ainsi que de 2 albums. Peu de temps après le concours de beauté, elle fait ses débuts au cinéma dans le film Karate Cop 3, Song of the Sea, avant d'interpréter l'héroïne Naoko Okumura dans Le Retour de Godzilla. Elle apparaît également dans le film Godzilla qui sort 5 ans plus tard, mais elle y interprète cette fois-ci un autre personnage, Erika Shiragami. À la télévision, elle apparaît dans de nombreux dramas tels que Myotsukushi et Taiheiki. Elle est aussi l'héroïne de la série télévisée au long cours Kaso Oken no Onna. Commencée en 1999, la 20e saison est diffusée en 2020. La série est adaptée au cinéma pour la première fois en 2021. Donc côté discographie, elle a sorti 2 albums, Haru yo Koi, le 21 décembre 1985, et Follow Me, le 29 avril 1988. Elle a également sorti 4 singles, Shiosai no Uta, le premier le 21 juin 1984, et le dernier Follow Me, qui est sorti le 25 février 1988. Voilà, on va pouvoir s'écouter suite deux chansons de Sawaguchi Yasuko, on commence par Follow Me et on reviendra juste après pour la chronique du volume 3 de An Hour of Romance.
Asian Bubble. Découvrez toute la culture asiatique sur Neptune FM.
Bye.
Donc c'était Sawaguchi Yasuko avec la chanson Hikari no Sugao. On passe maintenant à la chronique du volume 3 de An Hour of Romance. Donc je rappelle que c'est un manhwa de genre comédie-romance qui a été écrit par Kim Yong-mi et prépublié dans le Kakao. La version reliée française est parue aux éditions Keybooks avec pour le moment 4 tomes. Ce volume 3 est sorti le 10 avril 2024 au prix de 14,95€. Le résumé de ce tome, la vie n'est pas de tout repos pour Juan et Dojin. En plus des problèmes au bureau, ils doivent aussi composer avec le caractère facétieux du petit moine responsable de la malédiction. Heureusement, ils peuvent compter sur leur entourage pour leur venir en aide, ou pas. Cerise sur le gâteau, des fantômes du passé vont venir les hanter et risquent bien de tout chambouler. Donc les péripéties de Juan et Dojin se poursuivent dans ce tome 3. Si les situations sont toujours aussi amusantes, on en vient quand même à se demander si l'histoire ne risque pas un peu de piétiner ou de tourner en rond à la longue. La malédiction qui les oblige à échanger leur corps une heure par jour ne semble pas prête à être levée, mais c'est quand même agréable d'en apprendre un peu plus sur l'entourage de notre petit couple à la proximité forcée. Cela donne un peu plus de profondeur à l'histoire, tout comme les petits éléments que l'autrice nous distille, surtout vers la fin quant au passé de Juan. Donc ça reste encore très nébuleux pour le moment, mais on sent qu'elle n'a pas un passé tout beau tout rose, et que c'est sans doute pour ça qu'elle est aussi sérieuse et dévouée à son travail. Évidemment, la relation entre Juan et Dojin n'évolue pas vraiment, même si la jeune femme commence à se poser de plus en plus de questions quant au comportement de son subordonné à son égard et quant à ses sentiments étranges qu'elle ressent parfois en sa compagnie. À voir donc comment tout ça va évoluer, mais on reste pas mal sur du classique pour le moment. Voilà, donc je rappelle que la série An Hour of Romance est à retrouver aux éditions Keybooks avec pour le moment 4 tomes de sortie. On va s'écouter tout de suite l'opening Dadada du groupe Tamashii qui a servi donc de premier opening pour l'anime Belzebub et on reviendra juste après pour la présentation du manhwa Shunshu.
Ah! fermez la roulure.
Donc c'était Groupe Tamashii avec la chanson Dadada qui a servi de premier opening pour l'animé Belzebub. On passe maintenant à la présentation du manhwa Shunshu. Donc c'est un manhwa de genre aventure fantastique qui a été écrit par Kim Sung-jae, dessiné par Kim Young-jin et traduit par Johanna Klaus pour la version numérique. La version sud-coréenne est parue en 2000 aux éditions Aksan avec 15 tomes qui terminent la série. Et la version française est parue en 2003 aux éditions Tokebi avec 15 tomes également. Cette version vendue au prix de 7,95€ n'est malheureusement plus commercialisée, mais une réédition est parue aux éditions Keybooks le 14 février 2024 au prix de 14,95€ avec pour le moment 2 tomes de sortie. L'âge conseillé pour le lire est de 14 ans et plus et il n'existe pas d'adaptation en animé. L'un des plus gros succès de la BD coréenne est enfin de retour avec une nouvelle édition. Shunshu parviendra-t-il à découvrir la vérité sur son sinistre destin ? Donc, le résumé de cette série, Shunshu, désigné par l'oracle comme fils du démon à sa naissance et banni par son peuple, mène une vie de sang et de violence. Porteur de la pierre du démon qui le rend invincible, il sort victorieux de toutes les batailles, semant la terreur sur son passage. Décidé à comprendre pourquoi un tel destin lui a été infligé, il découvre qu'un mystère se cache derrière cette légende. Voilà, donc je rappelle que le manhwa Shunshu est à retrouver aux éditions Keybooks avec pour le moment 2 tomes de sortie. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Gooper Star de Gumi en featuring avec Hatsune Miku. Et on reviendra juste après pour les sorties manga de la semaine. C'était Gumi avec la chanson Gooper Star en featuring avec Hatsune Miku. On passe maintenant aux sorties manga de la semaine. Donc on a eu des sorties aujourd'hui lundi 18 novembre chez Black Box avec les volumes 2 et 3 de Hoshi no Yakata. On aura ensuite d'autres sorties pour mercredi 20 novembre. Donc préparez-vous parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On aura chez Pika le volume 10 de A Journey Beyond Even, le volume 1 de la réédition 2024 de Blue Corner. le volume 23 de Blue Lock qui sera disponible en édition normale et en édition jaquette alternative. On aura le volume 4 de Crack pour moi Medaka, le volume 2 de Dead Rock, le volume 32 de Eden's Zero, le volume 4 de Pfizer I Don't Want This Marriage, le volume 10 de Gachi Yakuta, le volume 10 de How I Married Namagami Sister, le volume 7 de Jumbo Max, le volume 6 de l'édition colossale de L'Attaque des Titans Before the Fall. On aura le volume 27 de Noragami en édition normale et en édition collector, donc ce volume 27 qui sera également le dernier tome de la série. On aura le volume 20 de Stranger Case, le volume 6 de Thunder 3, le volume 20 de Toilet Bond Hanako-kun qui sera disponible en édition normale et en édition collector, le volume 26 de Triage X, le volume 6 de Une fille atypique, le volume 1 de Watch Dogs Tokyo et le volume 7 et 8 de Yoku Oni. Chez Mangetsu, on aura la sortie du volume 1 de Amo Chasseuse de Dieu, le volume 10 de Land et le volume 10 des Enfants d'Hippocrate qui sera le dernier tome de la série. Chez Crunchyroll, on aura la sortie du volume 4 de Babel The New Hakkenden, on aura la sortie du volume 6 de la Dunk édition de Kuroko's Basket, le volume 2 de Reincarnated as an Aristocrat Dénicheur de Talent et le volume 1 de The Promised Neverland, l'édition Grace Field. Chez K-Dream, on aura la sortie du volume 2 de Barbarian Quest et le volume 2 de Cop. Chez Nobinobi, on aura la sortie du volume 11 de By the Grace of the Gods, le volume 6 des Chaventures de Tai et Mamisu, le volume 7 de Mago God of Destruction, le volume 3 de Sudachi, The Demon King Incident, et le volume 12 de À quoi tu joues, Ayumu. Chez le Lézard Noir, on aura la sortie du volume 4 de Couteau et Piment Vert, le volume 8 de Golden Gold, le volume 6 du Roi des Limbes, qui sera le dernier tome de la série, et le volume 1 de la réédition 2024 de Violence, Violence and Peace. Chez Glénat, on aura la sortie du volume 6 de l'édition Full Color de Dragon Ball, la sortie du volume 10 de Dragon Ball SD, le volume 2 de Jahadugar, la légende de Fatima, le volume 5 de L'amour est dans le thé, le volume 10 de L'Oxalis et l'or qui sera le dernier tome de la série, le coffret avec les volumes 1 à 5 de Sakamoto Days, le volume 3 de Stunts The Ninth Ghost qui sera le dernier tome de la série, et on aura également le coffret intégral de Terrarium. Aux éditions Soleil, on aura la sortie du volume 3 de Elle n'est rien qu'à moi, le volume 7 de Suicide Girl, le volume 33 de Super Mario Manga Adventures, le volume 7 de The Holy Grail of Eris, et le volume 15 de 3 Yakuza pour une Otaku qui sera le dernier tome de la série. Chez Delcourt Tonkam, on aura la sortie du volume 5 de Gourmet Détective, le volume 1 de la réédition intégrale de La Déchéance d'un Homme, le volume 1 de la réédition de La Tragédie de P, le volume 1 de la réédition du Chien de mon patron, le volume 1 du Dîner de la sorcière, le volume 1 des Oiseaux du Destin, le volume 26 de Love X Dilemma qui sera disponible en édition normale et en édition spéciale, le volume 1 des Histoires courtes de Rumiko Takahashi, le volume 1 de la réédition de Un bouquet de fleurs rouges et le volume 17 de World's End Harem. Chez Panini, on aura la sortie du volume 5 de Kotaro en solo et le volume 3 de Licolis Recoil. Chez Paquet, on aura la sortie du volume 1 de Nine Lives Main. Chez Nazca, la sortie du volume 25 de Tales of Demons and Gods. Et chez Keybooks, la sortie du volume 6 de The Beginning After the End. Ce n'est pas fini puisqu'on aura d'autres sorties pour jeudi 21 novembre avec chez Akata le volume 1 de E-Girl, le volume 2 de Enfer et Contre Toutes et le volume 2 de Jalouse. Chez Manabooks, on aura la sortie du volume 6 de How to Make Delicious Coffee, le volume 4 de Leçons de Vie avec Grand Frère Uramichi, le volume 3 de My Love Story with Yamada-kun at Level 999 et le volume 8 de Yokai Wars. Chez Kasai, on aura la sortie du volume 4 de Kirin The Happy Rider Speedway, chez Komiku, la sortie du volume 2 de La Naissance d'une Chevaleresse, et chez Kotoon, la sortie du volume 3 de The Office Blind Date. Ce n'est toujours pas fini, mais ça approche. On aura d'autres sorties pour vendredi 22 novembre avec chez Mao Edition la sortie du volume 10 de Berserk of Gluttony et le volume 2 de The Esper's Game. Chez Vega Dupuis, on aura la sortie du volume 4 de Breakdown et le volume 1 de Fauve, l'exorciste du Louvre. Chez Kana, on aura la sortie du volume 15 de Bucket List of the Dead, le volume 9 de Diamond in the Rough, qui sera le dernier tome de la série, le volume 8 de Cujo l'Implacable et le volume 6 de l'édition Deluxe de Slam Dunk. Chez Clair de Lune, on aura la sortie du volume 4 de Circe, chez Taifu Comics, la sortie du volume 5 de Citrus Plus, le volume 1 de Coup de Foudre dans ta face, le volume 1 de Good Morning Sunshine, le volume 1 de Kingsmaker et le volume 6 de Whispering You, A Love Song. Chez Ototo, on aura la sortie du volume 5 de Classroom of the Elite, le volume 17 de Danmachi Sword Oratoria, le volume 9 de Goodbye Dragon Life, le volume 7 de Kaiju Girl Caramelizer, le volume 5 de Killing Me, Killing You, qui sera le dernier tome de la série, le volume 13 du jour où j'ai décidé d'envahir la Terre, le volume 9 de Miyeru Kochan, Slice of Horror, et le volume 18 de Monster Musume, Everyday Life with Monster Girls. Chez Komogi, on aura la sortie du volume 1 de Day Off et le volume 3 du Grand Maître de la Cultivation Démoniaque. Chez Naban, on aura la sortie du volume 1 de Heure, Portrait de Femme, le volume 1 de Jésus, la réédition, le volume 1 de Kojiro du clan Fuma, le volume 4 de L'Aigle Écarlate et le Yeti et le volume 2 de Venus Wars. Chez Imo, on aura la sortie du volume 1 de La Croisade des Innocents et chez Ankama Édition, ça sera la sortie du volume 19 de Radiante. Voilà, cette fois c'est tout pour les sorties manga de la semaine. On va pouvoir s'écouter tout de suite une petite musique, c'est Waltz de HZM. Et on reviendra juste après pour parler culture avec le Japon dans les années 60.
Thank you.
Donc c'était HZM avec la musique Waltz. On passe maintenant à la partie culture. Donc, je vous avais parlé dans une précédente émission du manga Unlucky Young Men. Eh bien, ça va me servir pour vous parler un peu plus en détail du Japon des années 60. Donc aux frontières du polar et de la chronique sociale, Unlucky Young Men nous entraîne dans un Tokyo des années 60, ébranlé par le terrorisme et les révoltes étudiantes. Du futur prix Nobel de littérature Kenzaburo à l'écrivain maudit Yukio Mishima, en passant par le tueur en série Norio Nagayama, cette fiction-réalité extrêmement documentée s'appuie sur de véritables figures historiques pour nous dresser le portrait fascinant et sans concession d'un Japon à la croisée des chemins. Donc dans les années 1960-1970, le Japon voit naître de nombreux groupuscules idéologiques, tant communistes que nationalistes, qui cherchent à recruter de jeunes membres. En 1968, la tension est à son comble et de nombreuses manifestations étudiantes éclatent. Guerre du Vietnam, restitution d'Okinawa au Japon, ou encore présence américaine sur le sol nippon, les étudiants s'emparent de tous les sujets. Leurs mouvements sont de plus en plus politisés, les factions d'extrême gauche notamment dénoncent la domestication des élites japonaises et la satellisation du Japon par les États-Unis. Dans Unlucky Young Men, le groupuscule mis en avant est l'un des plus forts et des plus radicaux qu'a connu le Japon, l'Armée Rouge Unie, donc ARU. Groupe armé d'extrême gauche comptant une quarantaine de membres et plus d'une centaine de sympathisants, l'Armée Rouge Unie fut à son apogée l'une des entités terroristes les plus craintes dans le monde. Le 10 décembre 1968, au matin, quatre employés de banque convoient dans le coffre d'une voiture de leur société plus de 294 307 500 yens, soit environ 819 520 dollars de 1968. Ils sont arrêtés par un faux officier de police à moto qui, prétextant une alerte à la bombe, les fait descendre du véhicule avant de s'enfuir seul avec la voiture et l'argent. Une investigation de grande ampleur fut lancée avec 780 000 affiches diffusées dans tout le pays. La couverture d'Unlucky Young Men est d'ailleurs une imitation du portrait robot diffusé à l'époque. La liste des suspects comprenait 110 000 noms et 170 000 policiers participèrent à l'enquête, la plus importante de l'histoire criminelle japonaise. Après 7 ans de recherche, l'enquête est suspendue en 1975 sans que le coupable soit retrouvé. Donc ça, c'était le casse des 300 millions de yens. On a également eu l'affaire Nagayama. Donc à 19 ans seulement, Norio Nagayama défrait la chronique. Il tue de sang-froid 4 personnes au pistolet entre le 11 octobre et le 5 novembre 1968. Il est arrêté le 7 avril 1969 et après plusieurs jugements, la Cour suprême le condamne définitivement à mort en 1990. Malgré de nombreuses contestations sur le verdict, il a été exécuté le 1er août 1997. Et pendant ces années-là, on a également eu la purge des membres au cœur de l'Armée Rouge Unie. Donc traqués sans relâche par la police, les membres de l'ARU sont contraints de se retrancher dans les montagnes de la préfecture de Gunma. C'est dans ce contexte qu'en février 1972, Hiroko Nagata, le leader du groupuscule, décide de radicaliser davantage l'ARU en la purgeant des éléments coupables, selon elle, d'avoir perdu leur esprit révolutionnaire. Des supposées séances de remise en question tournent au lynchage, pur et simple. 9 personnes sont battues à mort pendant que 6 autres, attachées à des arbres, finissent par mourir de froid. Le 16 février, la police arrête Hiroko Nagata et 6 autres membres de l'ARU près d'un village. Voilà, donc c'était une petite plongée dans le Japon des années 60, donc c'était pas super joli. Et du coup, pour continuer à parler un petit peu de ces personnages, de ces figures historiques des années 60, on va pouvoir continuer à parler des personnages principaux du manga, donc Unlucky Young Men, qui est toujours paru aux éditions Kiun. Donc on parlera de tout ça la semaine prochaine. En attendant, on va pouvoir s'écouter une autre chanson. C'est Another Stressful Day de Hot et on reviendra juste après pour parler du manhwa, du volume 2 d'ailleurs de The Dangerous Convenience Store.
ラムもこちゃっとに追いぶりくつもを塗ると邪心なぬなり 게 답이잖아 밖에 나가기가 싫어 이마도 없고 머리는 아프고 해서 그 아무것도 끝나고도 거기까지도 그 어젯밤에 술을 너무 마신 것 같아 아 그러면 그러나 왜 내가 그때 했는지 물어보지 마 오늘은 괜찮아
얼굴은 부어있고 내 목소리는 감기가 걸린 것 같아
C'était Hot avec la chanson Another Stressful Day. On passe maintenant à la chronique du volume 2 de The Dangerous Convenience Store. Donc je rappelle que c'est un manoir de genre comédie-romance qui a été écrit par 945 et prépublié dans le Reedy Books. La version sud-coréenne est parue aux éditions Reedy Books avec 100 chapitres qui terminent la série et la version française est parue en relié aux éditions Key Books dans leur collection KBL avec pour le moment 4 tomes. Ce volume 2 est sorti le 24 janvier 2024 au prix de 14,95€ et je rappelle que la série est pour public averti de plus de 18 ans à cause du contenu adulte. Donc le résumé de ce tome, suite à leur premier rendez-vous, Wijun est de plus en plus troublé par le comportement de Gunwoo. Est-ce qu'il tient réellement à lui, ou est-ce que l'étudiant n'est qu'une proie supplémentaire sur son tableau de chasse ? Loin de se douter des tourments de son amant, le mafieux réalise peu à peu que les sentiments qu'il lui porte pourraient bien aller au-delà du désir charnel. Tiraillé entre la jalousie et les sentiments naissants, les deux hommes pourront-ils vivre une véritable histoire ? Donc la révolution de ce second tome, c'est la disparition des sabres laser, une information qui avait été annoncée, mais dont je n'avais pas entendu parler, donc j'ai été un petit peu surprise. Pour ceux qui ne sont pas adeptes de Boys Love, il s'agit de la censure qui remplace les organes masculins par du blanc. Donc Wijun et Gunwoo ont donc passé leur première nuit ensemble, une relation purement charnelle a priori, mais Wijun commence à se poser beaucoup de questions et il se rend compte qu'il n'arrive plus à se sortir Gunwoo de la tête. Bien qu'ils aient fait quelques sorties ensemble, Wijun ne sait pas ce qu'il est pour lui, cette situation le met mal à l'aise et il décide d'arrêter là cette étrange relation. Donc en dehors des scènes osées qui sont particulièrement bien faites, il faut le reconnaître, le webtoon met en valeur les réflexions des deux protagonistes Donc il y a des questionnements dus à une relation avec une personne que l'on ne connaît pas vraiment, les incertitudes sur les sentiments et les désirs, ainsi que les problèmes de communication. Bien sûr, il y a aussi les interactions extérieures qui viendront aussi par la suite pimenter l'histoire, surtout les événements du côté de Gunwoo qui baigne dans un milieu mafieux, mais c'est surtout les sentiments qui primeront jusqu'à la fin de l'histoire. Et c'est là où j'ai vraiment été surprise, car tout ce qui va se passer après ne découlera finalement que d'un seul objectif, mais je ne vous en dirai pas plus. Au final, Dangerous Convenience Store est une très belle surprise qui garde sa ligne directrice en tête et l'exploite admirablement bien. Alors si ce second tome peut paraître un peu frivole et coquin, je vous invite tout de même à poursuivre la lecture jusqu'au bout, ou vous ne le regretterez pas. Donc, pour rappel, la série finit en 100 chapitres et les deux premiers tomes couvrent les 28 premiers. Voilà, donc je rappelle que la série The Dangerous Convenience Store est à retrouver aux éditions Keybooks avec pour le moment 4 tomes de sortie. On va s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Ain't Nobody de Hatfelt, et reviendra juste après pour une actualité au Japon.
Come e quelli comara But you gotta know 누구도 나처럼 널 사랑하지 못해 누구도 나만큼 널 이해하지 못해 Hey nobody 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 gonna love you like I do And how to love a girl 넌 모든 건 게임이라 여기서 젊음이란 무기와 경험이란 변명 속 새로운 설렘을 찾아 어둠 속을 헤매다 그리고 넌 잠시 날 지웠겠지 짜릿한 전율이 널 감쌌겠지 But you gotta know 누구도 나처럼
C'était Hatfelt avec la chanson Ain't Nobody. On passe maintenant à l'actualité au Japon. Donc un touriste américain a été arrêté au Japon, soupçonné d'avoir gravé des lettres sur un portail en bois traditionnel d'un célèbre sanctuaire de Tokyo, a annoncé jeudi dernier la police locale. Le sexagénaire aurait utilisé ses ongles pour gratter l'un des piliers d'un tohori, donc un portail traditionnel érigé à l'entrée des sanctuaires Shinto, au Meiji Jingu, l'un des monuments les plus visités de la capitale nippone. Une porte-parole de la police a déclaré que l'homme avait été arrêté mercredi pour suspicion de dommages matériels. Cette arrestation s'inscrit dans une série d'incidents impliquant des touristes étrangers, de plus en plus nombreux à se rendre en vacances au Japon, à la faveur notamment d'un yen bas. En octobre, une influenceuse chilienne aux 139 000 abonnés avait fait l'objet d'une campagne virale en ligne très négative pour avoir publié une vidéo d'elle-même en train de faire des tractions sur un tori dans un autre sanctuaire japonais. Elle s'était ensuite excusée, affirmant que ce n'était pas son intention de manquer de respect à ce lieu sacré. Ça n'empêche pas que quand vous allez quelque part, vous vous renseignez un minimum avant de faire des bêtises. Donc le Japon, jouissant d'une popularité sans précédent auprès des visiteurs étrangers, affirme vouloir accueillir 60 millions de touristes par an d'ici 2030, soit près du double du record de l'année 2019. Mais les comportements indisciplinés et les incivilités des touristes agacent parfois. Dans l'ancienne capitale de Kyoto, par exemple, des habitants se sont plaints du harcèlement dont sont victimes les célèbres geishas de la ville. Voilà, on va pouvoir s'écouter tout de suite une autre chanson, c'est Triangle de Hajime Chitose, et on reviendra juste après pour finir l'émission avec une news musicale. Donc c'était Hajime Chitose avec la chanson Triangle. On passe maintenant et on va finir l'émission avec une petite news musicale concernant Morning Musume. Donc Morning Musume 24 se prépare au départ de l'une de ses membres les plus iconiques. En effet, Ayumi Ishida, membre de la 10e génération, quittera le groupe en décembre, mais ce ne sera pas avant un dernier opus. Ce nouvel album, intitulé Professional 17s, sera disponible le 27 novembre prochain en deux éditions, une édition régulière et une édition limitée avec un Blu-ray. Le 17e album original du groupe est porté par le titre You Canna Dance, un titre hommage à Ayumi et à son talent pour la danse. Parmi les autres nouveautés, on peut donc avoir Koibito, Mukasuki, et Ozora ni Mukatte. Certains titres sont interprétés en sous-unité, tels que Ochokochoi na Fantasia Romance par Ryo Kitagawa, Homare Okamura et Mei Yamazaki. Et deux duos seront également à découvrir avec Naisho Dayo par Sakura Oda et Akane Haga, et Aete Yokatta par Reina Yokohama et Haruka Inoue. Enfin, Hiyawase Shisu Hapyo Saretai mettra en avant Elina Ikuta, Ayumi Ishida, Miki Nonaka, Maria Makino, Ryo Sakurai et Ako Yumigeta. L'édition limitée inclut plusieurs nouvelles versions des clips de leurs deux derniers singles et de You Can Na Dance, mais aussi une interview, un making-of et le documentaire Hulu Morning Musume 24 Motto Documentary in Budokan, que le groupe a tourné à l'occasion de leur tournée de printemps 2024 Morning Musume 24 Concert Tour Haru Motto Morning Musume. Vous pourrez par ailleurs découvrir le clip de You Can Na Dance sur internet si ça vous intéresse. Donc pour résumer la liste des pistes de ce prochain album, on aura donc You Can Na Dance, Ochokochoi na Fantasia Romance, Koibito, Mukasuki, Sugoi Fever, Naisho Dayo, Nandaka Sentimental na Toki no Uta, Aete Yokatta, Neverending Shine, Shiawase Shisu Apyo Saretai, Wake Up Call Mezameru Toki, Saikyo et Ozora ni Mukatte. Voilà, pour terminer cette émission, on va pouvoir s'écouter la chanson You Can Na Dance de Morning Musume 24. Je rappelle que vous pourrez me retrouver vendredi prochain de 18h30 à 19h pour l'émission Cordialement Geek. Sinon, on se retrouve lundi prochain de 21h à 22h pour une nouvelle émission Asian Bubble. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt!
do it, just do it, you can dance. Do it, just do it, you can dance.